qui que vous soyez, la grâce de Dieu, sa miséricorde et sa paix vous sont données, sans condition. Notre servitude est finie, nous dit le prophète. Notre iniquité est expiée. Nous avons même reçu de la main de l'Éternel au double de tout, grâce sur grâce. Nous nous présentons ensemble devant le Seigneur notre Dieu, portés par ce chant de l'Assemblée, le premier chant que vous trouverez au début donc du psautier français dans ce petit livret liturgique. « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. » Ô Éternel, nous te rendons hommage car tu es pour toujours notre Dieu. De génération en génération, tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que depuis toujours nous remercions pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis, pour nos âmes qui te sont confiées et que tu accompagnes, pour tes miracles de tous les jours envers nous. Et donc à toute heure, le soir, le matin, à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève jamais. Père éternel, tes grâces ne tarissent pas, depuis toujours et pour toujours, nous espérons en toi. Alors je vous propose de poursuivre dans la louange ensemble avec le psaume 24 que vous trouverez dans le psautier français, « La terre au Seigneur appartient ». Les trois premières strophes de ce psaume de confiance en Dieu. Vous pouvez prendre place. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'Évangile. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta réflexion personnelle et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, nous dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et avec Grégoire de Nazianz, au IVe siècle, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. J'ai été bien déçu, ô Dieu de Jésus-Christ, par moi-même. Je suis tombé bien bas. Relève-moi. J'ai conscience de m'être trompé moi-même. Alors si de nouveau je deviens présomptueux, je retomberai aussitôt et ma chute sera fatale. Si tu me reçois, c'est bien, sinon je meurs. Aurais-je, moi seul, lassé ta bonté ? Je compte sur toi, ô Éternel. Éclaire mon esprit, dissipe toute erreur. En toi, Dieu de Jésus-Christ, j'ai plus confiance qu'en la victoire de mes propres forces. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement au plus profond de leur être la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et donc que votre cœur ne se trouble pas, nous dit Jésus-Christ. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Christ. Il y a bien des demeures dans la maison de notre Père, de son Père. Christ nous y fait une place spéciale pour nous. Dieu est amour. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Vous pouvez prendre place. Avec grande joie, je vous souhaite bienvenue tout particulièrement Dina et Amélie, qui avaient demandé donc le baptême parmi nous ce matin. Alors c'est une grande joie pour nous, la mère et la fille. Bienvenue à ceux qui vous accompagnent, c'est vrai que c'est une joie, et merci pour ceux donc, qui ont dans votre famille, qui viennent pour vous accompagner. Merci pour votre ouverture d'esprit. Alors je vous invite à vous approcher toutes les deux. Amélie, ce baptême, vous le mûrissez depuis quelque temps, puisqu'effectivement, vous êtes, si je puis dire, protestante engagée depuis des générations, sur les bords de l'Ogoué, donc en face de l'hôpital de Lambaréné, que vous voyez donc presque de votre fenêtre quand vous étiez là-bas, je ne sais pas très loin. Mais les aléas de la vie ont fait que vous n'avez pas été baptisée. Dina, votre parcours est plus divers. Même si ça reste dans la foi chrétienne, vous avez cherché du côté de l'Église catholique, des églises évangéliques, avant vous aussi de choisir l'Église protestante et l'Église de l'Oratoire. Alors toutes les deux ensemble, mais librement chacune, la preuve c'est qu'il y a une fille parmi les cinq qui vous accompagne, donc c'est tout à fait librement, on peut choisir évidemment d'autres parcours, d'autres églises, d'autres choix, bien entendu, mais librement chacune, vous avez poursuivi votre recherche, vous avez suivi le cycle d'initiation à la théologie, vous êtes venu au culte, vous avez recherché dans la Bible, vous avez prié, et puis aussi en vivant une réelle compassion toutes les deux dans votre travail, donc dans la santé, vraiment dans une action si humaine finalement avec les personnes qui souffrent, vous avez parcouru un chemin. Et ce chemin nous porte vraiment à la reconnaissance envers Dieu, à la grâce de Dieu, et puis à la gratitude pour tous ceux qui vous ont nourri aussi dans la foi, dans le témoignage. Et donc bravo pour tout ce que vous avez reçu, su recevoir comme foi, comme sagesse, et puis aussi de notre Dieu et de son inspiration. Alors ce chemin est ouvert devant vous, largement ouvert, et pas après pas, Dieu vous y accompagnera. Nous prions Dieu. Oui Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie. Alors tu es avec Amélie, tu es avec Dina, tu es avec à leur côté et tu ne les abandonnes pas. Que ce baptême soit signe de ta grâce pour elles, ô notre Dieu, et l'engagement de ta fidélité, qu'avec le Christ, elles reçoivent en abondance ta force, ta joie et ta paix, qu'elles en reçoivent tant que ces grâces débordent sur leurs proches. Amen. Alors Amélie et Dina, ce baptême vous redira chaque jour que vous n'êtes pas abandonnés sur le chemin de votre vie, mais portés par une tendresse infinie, celle de Dieu, le Créateur de l'univers. Amélie, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amélie, Dieu vous bénit et vous accompagne. L'Éternel, Dieu de la jeunesse du monde, Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, Dieu d'Isaac, Dieu qui ouvre des sources, Dieu de Jacob, Dieu du combat, Dieu de Joseph, Dieu du pardon et de l'abondance. Dina, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Dina, Dieu vous bénit et vous accompagne sur la route de votre vie. Dieu de Moïse, Dieu des prodiges pour nous libérer. Dieu de David, Dieu des louanges à l'Éternel. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, Dieu du salut pour toute personne au monde. Amélie et Dina, Dieu fait resplendir sur vous sa lumière, vous accorde sa grâce et vous donne sa paix, sa joie et sa force. Alors, vous avez accepté de dire quelques mots sur votre parcours. Alors, merci pour ce témoignage, donc, et cette action de grâce. Il faut parler. Moi, je vous tiens.
Tout d'abord, bonjour. Alors, bonjour qui se dit dans ma langue maternelle au Gabon, Mienne, Mbolo pour au singulier et Mboloani au pluriel. En fait, c'est une façon de souhaiter longue vie. Quand on dit, on arrive chez nous dans nos pratiques, à l'église, on se dit bonjour à tout le monde. Et nous commençons toujours nos journées par dire bonjour à qui que ce soit qu'on croise. Alors, nous sommes protestants, comme l'a bien dit le pasteur tout à l'heure. La mission de Ngomo, qui a été fondée depuis 1800, je ne sais pas trop la date exacte, dans la région de l'Ambaréné, pour faire simple. Donc, j'ai toujours lu la Bible. Et c'était par une pluie battante que je suis arrivée ici, à l'oratoire. J'ai cherché, après qu'un de mes cousins m'ait donné l'adresse, mais confirmé que je retrouverais ceux que j'ai toujours connus. Alors, je suis arrivée ici avec ma fille Dina, que voici. La mémoire, ce qui nous reste quand on a l'impression d'avoir tout perdu. Je suis arrivée à l'oratoire, j'ai entendu l'orgue retentir à 10h30. Je me suis dit, au moins, j'ai trouvé. J'y suis. Ensuite, il y a eu la prédication. Par la suite, donc, tout s'est fait, tout simplement. Le culte, les dimanches, à chaque fois que je ne travaillais pas, comme l'a dit le pasteur, je suis dans la santé, je travaille un week-end sur deux. Et puis l'initiation à la théologie, et enfin, le demande au baptême. Donc, merci à tous de nous accueillir dans cette grande famille chrétienne. Et merci particulièrement au pasteur Marc Pernaud, qui a su nous guider, nous inviter à la réflexion. Donc, merci à tous.
Merci beaucoup, Amélie. Dina.
Donc, je m'appelle Dina, je vais avoir 28 ans le 20 mai. Je suis cadette jumelle d'une famille de 5 enfants. Donc, j'ai toujours suivi ma mère aux différents cultes de différentes églises, sans vraiment trouver la présence de Dieu m'entourer. Donc, je suis aujourd'hui ici à l'oratoire. Moi, ma rencontre avec le Seigneur, elle s'est faite un vendredi soir avec ma sœur en Christ, Tracy. Et c'était pour moi vraiment une soirée très émouvante. Et j'ai été comme libérée d'un poids. Je me suis totalement abandonnée à lui. Et surtout, je lui ai fait la promesse de ne plus faire toutes ces choses que je faisais, dont j'étais consciente et qui allait à l'encontre de sa parole. Car j'ai toujours eu foi en lui.
Merci beaucoup. Merci Dina et merci Amélie. Alors, dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance, sachant que son amour, de toute façon, nous garde, Amélie et Dina, vous répondez à l'amour de Dieu par votre foi en lui et à ce Dieu qui vous dit, à chacune, « Tu es ma fille bien-aimée ». Vous lui répondez dans votre cœur et aujourd'hui publiquement, « Seigneur, tu es mon Père que j'ai dans les cieux ». Et maintenant, vous voulez préciser un peu, voilà, votre foi par quelques mots qui dit le cœur même de votre théologie et ça sera pour nous ce matin, notre confession de foi. Donc, je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à cette confession de foi. D'abord avec Amélie.
Je crois en Dieu notre Père, le Créateur de toutes choses. Il est esprit, il est amour. Je crois en son Fils Jésus-Christ, sacrifié pour nous. Je crois en l'homme, puisqu'il a créé en son image. La vie chrétienne n'est pas toujours une ligne droite. Pendant les moments de faiblesse et de découragement, j'ai une assurance, la foi. Le Saint-Esprit me guide et me rappelle que Dieu est à mes côtés. La Bible est un merveilleux guide de la vie.
Et avec Dina ?
Je crois en Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses sur terre. Il m'a remis sur le chemin qu'il avait tracé pour moi et il me fait grâce de sa bonté chaque jour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, mort à la croix pour mes péchés. Il m'a convaincu de ne plus vivre dans le péché et de suivre la route qui m'est destinée. Je crois en l'Esprit Saint qui m'accompagne chaque jour et me remplit de joie et d'amour. Psaume 5, versets 12 et 13. Alors tous ceux qui trouvent en toi un abri se réjouiront. Leur vie sera toujours un cri de joie. Tu les protégeras et ils exulteront en toi. Ceux qui aiment ton nom. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste comme un grand bouclier, tu l'entoures de faveur.
Merci beaucoup, Amélie, Dina. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place, sauf toutes les deux, pour vous accueillir, Amélie et Dina. Nous vous recevons avec grande joie comme membres de l'Église chrétienne, c'est-à-dire de la large communauté des frères et des sœurs qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Église qui dépasse toutes les institutions et les chapelles particulières. Nous prions Dieu pour vous. Ô notre Père, nous te remercions profondément pour Amélie et pour Dina que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit leur soit donné en abondance, qu'il affermisse chaque jour leur foi, qu'il fasse rayonner Amélie et Dina autour d'elles de quelque chose de ton esprit, de ton cœur, de ta parole. Oui, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci à la joie que vous nous donnez. Pensons à cette tradition familiale de bénédiction passée de génération en génération dans la famille d'Amélie et Dina. J'ai choisi dans la Bible, dans le livre de la Genèse, le récit d'une bénédiction qui se transmet de génération en génération. C'est au chapitre 48 du livre de la Genèse que je vais vous lire donc la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé par Jacob. On vint dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, « Voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Shaddai m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Et il m'a dit, « Me voici, je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays
à ta descendance après toi en possession perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte sont à moi. Éphraïm et Manassé seront à toi comme Ruben et Siméon. Israël regarda les fils de Joseph et il dit : Qui sont ceux-ci ? Joseph répondit à son père : Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël répondit : Je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit s'approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les prit dans ses bras. Israël dit à Joseph : Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm par la main droite et à gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains en les croisant, bien que Manassé fût le premier-né. Et il bénit Joseph en disant : « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. » Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Mais Joseph dit à son père : « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Mais son père, Israël, refusa et il dit : « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira toutes les nations. » Il les bénit ce jour-là et il dit : « C'est par toi qu'Israël bénira en disant : que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Et c'est ainsi qu'il mit Éphraïm avant Manassé. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter dans le petit recueil Louange et prière le cantique 216, les trois premières strophes de ce cantique « Seigneur, que ton règne admirable » 216. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui comme parole. Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. Alors c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de notre réflexion, à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. La saga de Joseph représente plus du quart, en fait, du livre de la Genèse, faisant le lien entre l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, et puis Jacob, Israël, et puis la suite qui est racontée dans le livre suivant, l'Exode avec Moïse et la marche vers la liberté. Cette histoire de Joseph, sur presque 3000 ans d'âge, a participé à nourrir la conscience de l'humanité. Joseph traverse à peu près toutes les difficultés possibles de la vie humaine, mal aimé par sa mère, qu'il appelle Joseph, ce qui se traduit par « il ajoute », non pas tellement pour se réjouir de Joseph lui-même, mais pour demander à Dieu de lui ajouter un autre fils. Sympa. Joseph est par contre trop chouchouté par son père, peut-être pas vraiment non plus parce qu'il est lui-même, mais parce qu'il est le fils de la femme qu'il aime, qu'il a toujours aimée. De toute façon, être ainsi le fils préféré, même si c'était pour une bonne raison, c'est toujours aussi difficile à vivre que d'être méprisé. Être le fils préféré, c'est une source d'orgueil pour Joseph, une source de jalousie pour ses frères. Et donc Joseph va connaître ensuite une tentative de meurtre par ses frères. Finalement, il va être vendu comme esclave, il va être maltraité, il va subir une agression sexuelle de la part d'une femme perverse. Il va croupir dans les geôles d'un pays étranger. Il rencontre des catastrophes naturelles, la maladie, la mort. Il va connaître aussi les succès les plus extrêmes. Pourtant, comme un héros digne de ce nom, Joseph traverse ses difficultés, s'en sortant magnifiquement à chaque fois. Un roman, oui, mais un roman qui nous parle du dépassement de toutes sortes de catastrophes qui peuvent nous arriver. C'est cela qu'il ajoute, Joseph, puisque tel est son nom. Une mystérieuse capacité à dépasser la négativité comme à dépasser l'abondance, l'un et l'autre, avec maturité. C'est un véritable tout-terrain, franchissant les hauts et les bas, les bosses et les creux, sans jamais céder à la malveillance, ni à l'euphorie, ni au désespoir, et en tirant toujours le positif. Alors comment y parvenir? Y a-t-il un truc à ça? Une sagesse, une force? Oui, sans doute, mais très discrètement, comme intérieurement, il y a Dieu qui est à l'œuvre dans le secret pour son héros. En effet, dans cette histoire de Joseph, il n'y a pas de récit de prodige de la part de Dieu, comme des mers qui s'ouvrent en deux, pas de tonnerre ni de colonne de nuée, pas de géant ou même d'armée entière vécue d'une pichenette ou simplement en levant les bras vers le haut. Joseph, il évoque simplement Dieu comme l'accompagnant, et Joseph rend grâce à Dieu. Et c'est dans cette discrète louange que nous allons pouvoir discerner finalement l'articulation entre Joseph et Dieu et comment Joseph arrive ainsi à surmonter tellement bien les hauts et les bas de l'existence. Alors bien sûr, la plus difficile des choses que Joseph a vécues, c'est le choc terrible de la trahison de ses frères. À la fin de l'histoire, ils sont là, tout penauds devant Joseph devenu un homme puissant, et ses frères sont terrorisés et s'attendant à une vengeance qui leur semblerait en fait toute naturelle après ce qu'ils lui ont fait. La réponse de Joseph est bien connue car c'est une des plus belles phrases de la Bible, une des plus sages, une des plus pleines de foi. Joseph leur répond à leur crainte en disant « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Le mal que vous aviez combiné de me faire, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Alors c'est pratiquement la conclusion, les derniers mots du livre de la Genèse comme une victoire sur la méchanceté humaine, comme une confiance en Dieu, non pas pour guider chaque événement de l'histoire en tirant les ficelles, mais pour l'accompagner, accompagner l'histoire et la convertir, et finalement transformer le mal en bien. Alors il est utile d'aller voir précisément et donc littéralement ce qui est écrit dans cette phrase, la phrase clé du dépassement de la méchanceté. Le mal que vous aviez combiné de me faire, Dieu l'a changé en bien, dit notre traduction. Alors le verbe important de ce passage, c'est celui qui décrit ce que Dieu fait, bien sûr. C'est le verbe « rachav » qui ne désigne pas une action physique comme un geste de la main pour créer ou bien un geste du pied pour avancer, mais ce verbe désigne une action de la pensée, un peu comme l'artiste qui imagine déjà le tableau ou la sculpture qu'il va faire avant même d'attraper son pinceau ou son burin. C'est le projet de l'artisan ou de l'ingénieur, c'est aussi la façon dont la personne, une personne considère finalement une personne qu'elle aime. Ce verbe « rachav », c'est ainsi une façon de considérer la réalité présente et d'imaginer ce qu'on peut en faire. Et on se rend compte que ce verbe apparaît en réalité deux fois dans ce passage, que l'on pourrait donc traduire ainsi, ce que vous aviez pensé en bien, en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien, en vue du bon. Dieu convertit ainsi l'histoire dans un changement de perspective sur la réalité présente et il la relie, cette réalité, en l'orientant vers un bon futur possible. Joseph l'a senti, ou plutôt il l'a vécu en y recevant une force pour tout surmonter. Et c'est apparemment là son secret à Joseph. Ce héros qui est aussi une figure de nous-mêmes ayant à affronter les hauts et les bas qui pourraient bien nous emporter et nous faire faire n'importe quoi. Mais continuons l'enquête de ce que Joseph a de plus et ce qu'il ajoute pour que l'histoire avance avec un autre moment clé de son histoire qui est là encore une occasion pour Joseph de témoigner de ce qui l'anime et de ce qui lui permet d'avancer. Il vient d'être tiré des geôles égyptiennes et le pharaon lui donne tout pouvoir, ayant reconnu en lui quelqu'un d'inspiré par le souffle de Dieu. Et donc en plus de devenir premier ministre de toute l'Égypte, Joseph va alors même avoir deux fils. Comment est-ce que Joseph réagit devant cette abondance incroyable, ce retournement ? Là encore, comme nous l'avons vu plus haut, il ne se prend pas pour Dieu, et il le remarque bien. Il ne se prend pas pour Dieu, ni donc pour juger les autres, comme dans le premier passage, ni pour s'attribuer tous les mérites de son succès dans ce passage que nous regardons maintenant. Il parle de ce qu'il vit à travers la nomination de ses deux fils. Joseph donna à son premier-né le nom de Manassé, oubli. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Techniquement, Joseph n'a pas vraiment oublié sa peine et il n'a pas oublié non plus ses frères, puisque précisément il en parle ici, et qu'ensuite il va les reconnaître, il va les faire venir, il va sauver toute la famille, et qu'encore à la fin il va leur dire « Ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien ». Quel est donc cet oubli dont Joseph parle ici en nommant son premier-né? Ce n'est donc pas une amnésie. C'est autre chose aussi que de pardonner ou de faire grâce. Ce ne sont d'ailleurs pas ces verbes-là qui sont bien connus dans la Bible qui sont utilisés ici pour nommer Manassé. On voit comment Joseph oublie en réalité. Oublie ce que lui ont fait ses frères et toutes les peines que cela lui a apportées. Ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien. Joseph, finalement, tient donc leur sale combine pour nul. Pardonner ces actes ignobles, ce serait peut-être encore leur faire trop d'honneur, leur laisser trop de place, comme les comprendre, les excuser. Joseph, il tient ça simplement pour nul. Et c'est Dieu qui lui donne cette force, cette capacité. Joseph appelle donc son premier fils Manassé, oubli. Joseph donna au second le nom d'Éphraïm, ce qui veut dire fécondité au pluriel, double fécondité en fait. Car, nous dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. Éphraïm veut donc dire doublement fécond, de para, porter du fruit, au duel hébreu. C'est un verbe qui est bien connu puisqu'il est utilisé au tout début de la Genèse pour la création de l'humain, quand il nous est dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds », comme une promesse finalement. Et donc voilà donc comment Joseph parle de ce qui lui a donné cette incroyable capacité de franchissement des obstacles de la vie comme de l'abondance et de la réussite. Dieu l'a rendu capable d'oublier et capable de porter du fruit. Et la grammaire encore nous permet de discerner, de sentir l'intensité de ces deux dimensions. L'oubli que Dieu offre est à une forme intensive et accomplie. Quant à la fécondité, elle est donc au duel comme une fécondité élevée au carré. Alors c'est si important que ce texte nous invite à porter cette bénédiction d'Israël donnée à Joseph. C'est vraiment mis en valeur à la fin du texte que nous avons entendu. Et c'est ainsi que les Juifs se transmettent de génération en génération cette formule pour bénir leurs enfants, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. Alors c'est incroyable car la bénédiction pourrait être donnée au nom d'Abraham, Isaac, Jacob. Eh bien non, c'est cette bénédiction pour rendre comme Éphraïm et comme Manassé, pour que Dieu donne à nos enfants cette prodigieuse capacité de franchissement qu'a Joseph, et qu'ainsi ils soient au sens propre des Hébreux, c'est-à-dire des franchisseurs. Et pour cela, il faut donc ces deux dimensions, l'oubli et la fécondité, ou plutôt la fécondité rendue possible par l'oubli, selon le renversement choisi par Jacob dans sa bénédiction de son fils Joseph, mettant Éphraïm, la fécondité, en premier, devant Manassé, l'oubli. Car Dieu est le Dieu de la vie. Il n'est pas simplement celui qui purifie notre mémoire de toutes ses souillures, de toutes nos impuretés. Alors oui, il purifie ce qui doit l'être, mais la fidélité n'est pas la finalité, n'est pas la pureté. Ce n'est pas de régler les comptes, mais la fidélité de l'action de Dieu, c'est la vie, et que le bon, le très bon, grandisse. Alors l'oubli a parfois mauvaise presse. Ce qui est à la mode, c'est le devoir de mémoire ou la recherche du dévoilement des choses enfouies dans notre passé, grattant toujours et encore un passé douloureux. C'est peut-être le pardon pour les moralistes qui est plus à la mode. Ce prétendu devoir de pardonner a fait un mal infini, je pense, conduisant bien des victimes à se laisser maltraiter, par exemple. Ce qui me semble proposé dans notre texte m'apparaît comme plus sage, comme plus juste et plus vrai, comme plus faisable aussi. L'oubli au sens de considérer comme nul ce qui est mauvais, et puis de considérer comme nul la source de ce qui est mauvais, et de passer. Renoncer à régler nos comptes, comme le dit Joseph. Nous ne sommes pas Dieu. Mais d'ailleurs, avec Jésus-Christ, nous savons que Dieu non plus n'est pas comptable. Se détourner du mal futur, du mal présent et du mal passé. Lui, tourner le dos, simplement. Chercher à pardonner, est-ce que ça ne fait pas trop d'honneur au mal passé? Faire mémoire, même si c'est pour dire « Pouah, quelle horreur !» N'est-ce pas attribuer une sorte de légion d'honneur à ce mal qu'on va encore et encore ruminer? N'est-ce pas parfois même adresser un prix Nobel au crime? L'oubli évoqué par la bénédiction de Manassé n'est pas un enfouissement du mal. C'est se tourner vers autre chose, passer à autre chose. C'est une étape. La première dans une histoire, comme le dit Joseph, permettant de se tourner ensuite vers le futur. Mais comme l'indique Jacob, la finalité n'est pas la grâce de l'oubli, mais la grâce de la fécondité. Alors ce n'est pas une chose ni facile ni immédiate, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui se contrôle comme ça. Par exemple, quand on a été tellement trahi par ceux qu'on aime, comme Joseph, ou alors quand on est frappé par le manque de ressources, ou par le manque d'estime, ou par le chômage, par la maladie, par des deuils qui peuvent vraiment être extrêmement cruels, terribles. C'est pourquoi il me semble utile de noter avec Joseph que l'oubli dont il parle est une grâce, un don de Dieu à recevoir. Alors un don qu'on peut attendre et demander, bien sûr, un don qu'on peut rechercher dans la sagesse, dans la méditation, dans un effort de volonté et de prière, mais qui reste quand même un don surnaturel et pas seulement une performance personnelle. Le don, ce n'est pas simplement une grâce ponctuelle dont il est question ici, mais c'est une capacité, finalement, qui nous est donnée à oublier le mal, à le rendre nul pour nous. Jacob bénit cette grâce faite à Joseph. Et pourtant, c'est au nom d'une mémoire qu'il bénit Éphraïm et Manassé, bien sûr. Et donc la capacité à oublier et à être fécond, qui est valorisée ici, ce n'est pas un oubli total. Jacob les bénit de la mémoire de ce que Dieu a donné dans les générations passées à Abraham, à Isaac et à lui, Jacob, accompagné comme par un berger, accompagné par un ange, c'est-à-dire par une parole qui le met en route. Un Dieu qui anime et qui soigne, un Dieu qui accompagne et qui bénit, le Dieu de la promesse. Et donc la mémoire qu'invoque Jacob au moment de cette bénédiction, c'est la mémoire de la promesse. C'est donc une mémoire du futur, si je puis dire. Mémoire d'un futur inconnu, mais qui existe, puisque Dieu s'y est engagé. Ce que vous aviez pensé en mal, Dieu l'a pensé en vue du bien, en vue du bon qui va arriver. Nous avons donc un utile travail de mémoire qui ne consiste pas à ressasser le passé, mais à faire mémoire d'une promesse. Ce n'est donc pas se réfugier dans le passé, ni dans des rêves à la noix, des sortes de choses fumeuses. c'est une mémoire qui nourrit notre élan d'une confiance, qui nourrit notre élan d'assentiment et de gratitude. Cet oubli de Manassé n'est donc pas une amnésie, mais c'est une digestion. Il permet de passer aux choses sérieuses. Comme l'apôtre Paul qui, lui aussi, sait ce que c'est que le mal dont on se sent coupable, le mal aussi subi dans son propre corps, lapidé, je ne sais plus combien de fois, maltraité, battu, méprisé, dans des persécutions, dans des problèmes rencontrés avec les autres, avec des collègues, avec des concurrents. « Je fais une chose, nous dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul connaît bien cette bénédiction de Jacob, « Que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Parce que déjà de son temps, c'est ainsi, bien sûr, qu'on bénissait les enfants dans les familles. Montaigne aussi, qui est une de mes grandes admirations, fonctionne aussi comme cela pour avancer. « J'ai, dit-il, un dictionnaire tout à fait personnel. Je passe le temps quand il est mauvais et désagréable. Et quand il est bon, je ne veux pas le passer. Je le goûte à nouveau, je m'y arrête. » Oui, il faut passer le mauvais en courant et s'arrêter au bon. Et puis ensuite, Nietzsche aussi, bien sûr, fera l'éloge du divin art d'oublier. Jacob, il est surpris par l'incroyable puissance de vie qu'il y a en Dieu. Il dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voilà que maintenant... « Je vois même ta descendance. » Alors il ne pensait pas, nous dit-il. C'est pas faute de faire mémoire des promesses, il s'en souvient. Il était jeune encore, à Luz, lieu qu'il a renommé en Bethel, la maison de Dieu, la porte des cieux. En mémoire de cette rencontre où Dieu lui promettait un avenir pour lui et pour sa descendance. Cette mémoire de la promesse... Mémoire du futur, mémoire de son avenir. Dieu l'a lui encore répété récemment au moment où il parle. Et c'est ce qui lui a donné la force, l'audace d'aller en Égypte, en terre étrangère. Il savait qu'il avait là un avenir, malgré toutes ses craintes. Mais il ne savait pas que ce serait à ce point-là, ni comme cela, et qu'il y aurait donc une fécondité au carré, dépassant tout ce qu'il pouvait imaginer. Oui, une fécondité dépassant tout ce que nous pouvons imaginer, mais nous pouvons attendre quand même en faisant mémoire de la promesse, mémoire d'un futur certain pour nous. Frères ou sœurs, amis, sois bénis en ce jour, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. Amen. Et je vous propose que nous chantions ensemble, pour poursuivre dans la prière, le psaume 72, « Revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix », les trois premières strophes de ce psaume 72. Vous pouvez prendre place pour le temps de quelques annonces. Alors un grand merci à Aurélien Péter, donc, qui nous accompagne à l'orgue aujourd'hui. Grand merci à Marie-Lou qui est à la garderie et puis aux personnes qui nous ont préparé donc un temps d'accueil à l'issue de ce culte qui est derrière les grandes portes avec plein de belles choses fabriquées à la maison. Donc je veux dire, c'est un moment important voilà, de ce culte aussi, de pouvoir être ensemble et puis partager avec les uns et avec les autres, c'est important aussi. Alors à l'issue de ce culte, il y a aussi des gâteaux qui ont été préparés par les routiers qui effectivement ont un projet en Arménie avec Solidarité protestante France-Arménie, je crois.
C'est donc, ça. Oui. Bah, merci monsieur Pernaud. Surtout qu'en ce moment, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de sorties gâteaux à la sortie du culte. Et sachez que cet argent, il sera très bien utilisé. C'est pour nous permettre d'effectuer cette action en Arménie. Dans un premier temps, on ira aider des enfants dans une colonie d'été. Et ensuite, on ira servir la soupe populaire à Erevan, la capitale du pays. Donc on est dehors, on vend des gâteaux, il y a un peu de sucré, un peu de salé. Et on vous attend nombreux. Bon dimanche.
Merci beaucoup. Lundi soir à 19h30, il y a le grec biblique pour les progressants et puis mardi, il y a le grec biblique pour les débutants. Donc ces deux groupes sont animés par Aurore Mériot, que nous remercions énormément. Mardi à 20h, Donc en face aussi, donc 4 rue de l'Oratoire, il y a le groupe Philosophie et Théologie, à 20h, avec Denis Guénoun qui prépare quelque chose sur Bonhoeffer et la religion. L'idée de religion, nous dit-il, en relation avec les surprenantes formules avancées à ce propos par le théologien Dietrich Bonhoeffer, dans les lettres qu'il a écrites depuis sa prison sous le nazisme et peu avant qu'il soit donc fusillé sur ordre de Hitler. Donc moi je me réjouis énormément de cette rencontre de mardi soir qui vient clore cette année voilà, de philosophie et théologie qui a vraiment été très très riche et qui va l'être encore mardi soir avec Bonhoeffer, incroyable personne. Alors jeudi soir, il y a le chœur de l'oratoire qui répète en vue de son concert de fin juin. Samedi à 10h, il y a l'hébreu biblique avec le pasteur Gilles Castelnau. Et puis samedi, vers 12h30, 1h, il y a le banquet des lycéens. Donc s'il y a un lycéen ici, si vous avez un petit frère, une petite sœur, quelqu'un que vous connaissez qui est lycéen, protestant ou non, bienvenue à ce banquet, mais vaut mieux quand même s'inscrire pour qu'on prévoie ce qu'il faut. Et puis il y a aussi à déguster une discussion, un débat bien sûr, théologique à cette occasion. Dimanche prochain, ici même, il y aura le culte avec la pasteur Christina Mikkelsen, et puis ça sera un dimanche d'éducation biblique, j'espère, avec le beau temps pour pouvoir aller pique-niquer aux Tuileries aussi. Donc, merci beaucoup pour ce moment de culte partagé ensemble et puis pour votre générosité dans l'offrande qui, ce dimanche, est entièrement consacrée à l'entraide pour les plus démunis et pour soutenir les actions que nous poursuivons en votre nom. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, sois béni pour ta parole de vie, parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Alors accorde-nous de la recevoir chacun en ligne directe, au plus profond de nous-mêmes. Que ta parole y purifie la source même de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Qu'elle sublime nos désirs. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse et que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie des actes vrais. Et que nous trouvions alors qui est-ce que tu nous confies en particulier ? Quelle personne ? Quelle situation ? Pour que nous soyons source de libération et de consolation, source de réveil et d'exhortation, source de réconciliation, source de paix. Oui, béni sois-tu, ô Éternel notre Dieu, que toute la terre soit remplie de ta présence créatrice. Béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui es tendresse et fidélité, de génération en génération. Amen.